lettre coréenne. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettres coréennes. Cette semaine, nous vous proposons de lire ensemble la nouvelle de Chun Myung-kwan, La joyeuse bonne Marisa.
Ah Thomas, je ne me souviens plus quand remonte la dernière fois que je t'ai écrit. Tu dois lire cette lettre assis à table juste après être rentré de ton voyage. Je sais que tu dois être fatigué, mais aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. Alors ne te fâche pas et lis d'abord ma lettre. Oh, j'ai mis ton vin préféré dans le réfrigérateur du Dom Pérignon. C'était un peu cher, mais tu peux en boire autant que tu veux ce soir, parce que je l'ai préparé juste pour toi.
La joyeuse bonne Marisa est une nouvelle de Chun Myung-kwan publiée en 2006. Cette histoire adopte la forme d'une lettre écrite par une femme du nom de Johanna à l'adresse de son mari Thomas, qui est écrivain. Voici la critique littéraire Chun So-young qui nous en dit un peu plus là-dessus.
Le récit se développe de façon intéressante. Dans sa recherche de la vérité, Johanna réorganise des événements sans cohérence comme si elle écrivait une fiction. L'histoire se déroule sous forme de lettres, ce qui donne l'impression d'être racontée de vive voix. On peut dire que c'est la réponse de l'auteur à la question de savoir comment un récit se construit. Thomas, mon amour, il m'a fallu beaucoup de temps pour écrire cette lettre. Tu es écrivain, tu sais donc mieux que quiconque que je suis nul en langue. Même lorsque nous nous parlions, tu corrigeais toujours mes innombrables erreurs grammaticales. Alors, imagine ce que je dois ressentir en t'écrivant cette lettre.
Johanna dit qu'elle est allée au cinéma la veille au matin pour pleurer seule et mentionne le nom de Marisa, la femme de chambre.
Une fois qu'elle commence le nettoyage, elle devient si vive que j'ai l'impression qu'il y a 3 ou 4 Marisa dans la maison. Bien qu'elle soit pauvre, de douces mélodies sortent de ses lèvres. Son énergie joyeuse est un don précieux de Dieu.
Puis Johanna ajoute qu'elle s'est mise à écrire la lettre à la suite d'un coup de téléphone de Bruno, l'ami de Thomas. Quand elle lui a dit que son mari était allé à Saint-Tropez afin de recueillir des renseignements pour son prochain roman, il a ri et a dit que c'était une nouvelle assez étonnante car Thomas n'était jamais parti en voyage pour préparer ses œuvres. Après avoir accroché, notre protagoniste se souvient avoir vu un catalogue d'exposition dans le cabinet de travail.
Il contenait des peintures du port de Saint-Tropez. Ce n'est qu'après l'avoir découvert que je me suis rendu compte que tu étais allé voir une exposition à mon insu. Bien sûr, je peux deviner la raison, c'est certainement à cause de cette fête.
Et il y a quelque temps, le couple a assisté à une fête organisée pour célébrer la publication d'un ouvrage de Günther.
D'habitude, je reste silencieuse à la fête, mais ce jour-là, j'étais tout excitée et bavardais sans arrêt, comme si j'étais l'invité d'honneur. Les gens ont prêté attention à ce que je racontais, j'ai parlé de vie antérieure, ne te fâche pas Thomas. Tu commences par t'emporter à chaque fois que je mentionne des vies passées. Ce n'est pas une attitude très tolérante pour un écrivain.
Ce jour-là, Thomas et Johanna ont eu une grosse dispute dès qu'ils sont rentrés chez eux. Es-tu vexé parce que j'ai attiré l'attention des gens ?
Qui aimerait que sa femme attire l'attention des gens parce qu'elle est ignorante ?
Thomas, es-tu en train de dire que je suis ignorante ?
Franchement, oui. S'il te plaît, arrête de parler de choses stupides comme l'astrologie ou les vies antérieures devant les autres.
Retrouvons une nouvelle fois la critique littéraire Chun So-young qui nous en dit un peu plus sur le personnage de Thomas.
L'auteur Chun Myung-kwan fait la satire de l'attitude figée des écrivains à travers Thomas. Bien que ce personnage soit un écrivain, il ne fait jamais de recherche pour ses œuvres. Il met l'accent sur la pensée logique et les règles grammaticales, ce qui est un comportement problématique pour un écrivain. La vie humaine ne peut jamais être parfaitement logique et les choses déraisonnables, comme les vies antérieures, les rêves ou le sixième sens, l'emportent parfois de loin sur les choses raisonnables. Un bon écrivain devrait étudier toutes ces choses et les traduire en mots.
La fête de Günther, les vies antérieures, l'exposition d'art, Saint-Tropez, le rire de Bruno. Tous ces souvenirs amènent Johanna à la conclusion.
Une femme. C'est ça, c'était la réponse de cette énigme complexe. Tu avais une autre femme. Tu es parti en voyage à Saint-Tropez avec ta maîtresse sous prétexte de travailler sur une histoire.
Submergée par le sentiment de trahison et la tristesse, Johanna se met à la recherche de l'autre femme. Elle fait une liste de toutes les femmes que Thomas connaît et raye les noms des moins susceptibles.
Angela, Katrina, Suzanne, c'était donc un processus d'élimination, bien évidemment. Je ne pouvais pas savoir tout ce qui s'était passé entre toi et ces femmes, donc le jugement était fondé en grande partie sur mon intuition. Viviana, Eva, Monica, j'hésitais un instant avant de rayer Monica. J'avais l'impression que tu devenais quelque peu excité à chaque fois que tu lui ai parlé au téléphone. J'ai inventé une excuse pour appeler son bureau et j'ai découvert qu'elle était aux prises avec un manuscrit alors qu'elle pouvait à peine parler à cause des amygdales gonflées. La pauvre. À la fin de la journée, il me restait 10 suspects. Cette nuit-là, j'ai eu de la fièvre et un violent mal de tête. J'ai avalé des médicaments qui se trouvaient à la maison sans vérifier ce que c'était. Dans mon rêve, tu couchais avec les 10 femmes qui restaient sur ma liste. Un horrible cauchemar. Et le lendemain, j'ai recommencé à trier les noms au lit. Plus je me rapprochais de la vérité qui se cachait derrière les grandes flammes, plus je devenais excité. Les gens m'auraient prise pour une folle s'ils savaient que je parvenais à un état d'exaltation en essayant de découvrir qui était la maîtresse de mon mari. Mais c'était plus ou moins vrai. Bientôt, il ne restait qu'un nom sur la liste. J'étais sous le choc. C'était comme si mon cœur allait s'arrêter. Sais-tu qui c'était, Thomas ? Oh, c'était Nadia Hall.
Nadia est la sœur cadette de Johanna. Notre protagoniste appelle tous les hôtels de Saint-Tropez et trouve enfin où loge son époux. Puis elle passe le dernier coup de fil pour confirmer ses soupçons.
Pendant que le téléphoniste passait l'appel à la chambre, je me sentais tellement submergé par la vérité effrayante qui allait bientôt être révélée que j'ai voulu raccrocher. Je priais pour que ce ne soit pas vrai, jusque j'entende sa voix à l'autre bout du fil. Hélas, c'était bien la voix de Nadia.
Johanna laisse tomber le combiné lorsqu'elle entend une voix familière, celle de sa sœur. Elle se précipite au cinéma en pleurant.
Alors que je pleurais dans la salle de cinéma, un film français passait à l'écran. J'ai compris à ce moment-là qui devrait en payer le prix. Je dois avouer que ma vie antérieure est à blâmer. La mère de Néron, une tentatrice qui a manœuvré son fils et empoisonné son mari, c'est vrai. Je ne veux pas le croire, mais malheureusement j'étais Agrippine, la femme fatale de Rome dans ma dernière vie. Elle a commis plusieurs meurtres et de nombreux autres crimes. Ceux qui devraient en payer le prix ne sont donc pas toi et Nadia, mais moi-même.
Johanna blâme sa vie antérieure pour l'adultère de son époux. Voici Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, qui nous explique pourquoi elle impute l'infidélité de son mari à elle-même.
Nous comptons souvent sur le karma ou la vie antérieure pour expliquer les mystères de la vie ou des souffrances inexplicables, sans en vouloir aux autres ou blâmer le monde. Dans sa lettre, Johanna attribue l'infidélité de son époux à sa vie passée. C'est ainsi qu'elle endure la dure réalité.
Après avoir versé des larmes au cinéma, Johanna achète deux bouteilles de Dom Pérignon, une pour elle et une pour Thomas. Elle demande à son mari de payer le salaire à sa femme de ménage, Marisa.
Sa fille Amélia a récemment accouché d'un fils, mais son gendre, affirmant qu'il ne lui ressemblait pas, a mis un gros temps dans l'oreille du nouveau-né pendant qu'il dormait. Marisa l'a signalé à la police pour tentative de meurtre et l'insecte a été retiré à l'hôpital. Mais le pauvre enfant continue de faire du bruit comme un temps.
Puis Johanna révèle son plan. Pendant que Thomas rentre de l'aéroport, elle va se mettre dans la baignoire et boire le champagne empoisonné à l'aconitine. La longue lettre se termine ainsi.
Tu viens de m'appeler pour me dire que tu es arrivé à l'aéroport. Thomas, je te souhaite une bonne santé. Je n'ai toujours aimé que toi. Salut Nadia de ma part. Bien à toi, Johanna.
Lorsque Thomas finit de lire la lettre, sa bouteille de champagne est complètement vide.
Devrais-je appeler la police? Non, je ferais mieux de m'assurer que Johanna est morte. Mais je ne veux vraiment pas voir son cadavre. La scène m'entrait pour le reste de ma vie. Ce serait même plus horrible si elle avait vomi du sang. Merde, quel genre de poison est donc l'aconitine?
Tout s'embrouille dans sa tête.
Et si la police me prenait pour le meurtrier? J'ai plein de motifs. Mais comment Johanna a-t-elle découvert que je la trompais? A-t-elle eu recours à l'astrologie? Qu'est-ce que c'est que ce processus d'élimination et cette agrippine? Qu'est-ce qui lui passait par la tête? Peut-être qu'elle avait l'intention de me piéger pour sa mort. C'est tout à fait possible, pour une femme aux idées bizarres comme elle. En tout cas, Nadia serait choquée par la nouvelle. Non. Elle penserait que c'est mieux ainsi. Elle a dit que sa sœur était trop stupide et qu'elle avait souhaité sa mort. Et mon cœur bat trop vite, rien d'étonnant. J'ai fini toute une bouteille de vin et je suis dans une situation horrible. Je devrais me saisir. Je risque d'être accusé de meurtre. Oh, il vaut mieux appeler Marisa. Elle peut probablement s'en occuper.
Thomas essaie de se lever, mais en vain. Il se sent paralysé. Juste à ce moment-là, Johanna sort de la salle de bain en peignoir avec une bouteille de champagne vide à la main.
Thomas, que se passe-t-il? Suis-je encore en vie? Je pense que je le suis car j'ai un terrible mal de tête. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'as pas l'air si bien.
Soudain, la tête de Thomas tombe sur la table. Puis Marisa fait irruption dans la pièce.
Madame, Manuel a cessé de faire du bruit du temps. L'astrologue a dit qu'il était une citelle dans sa vie antérieure. Alors, comment un temps pourrait-il lui faire du mal? Oh mon Dieu, c'est une bonne bouteille de vin dans votre main? Qu'est-ce qui vous a fait boire dès le matin? Vous voir à moitié nu et tenir une bouteille de vin me rappelle cette horrible femme de Rome. Comment s'appelle-t-elle? Votre vie passée, celle qui empoisonnait les gens. Bref, on dirait que vous êtes cette femme-là. Et pourquoi avez-vous laissé une bouteille de vin ouverte? Je l'ai refermée et l'ai échangée avec celle du frigo. Oh, je n'ai pas remarqué que monsieur était là. Comme c'est stupide de ma part de continuer à bavarder. A-vous fait un bon voyage? Oh là là, il saigne du nez. Il a dû être dans la vieille trop longtemps. Bonjour, c'est l'hôpital. Non, c'est la poissonnerie de monsieur Otto. Oh non, Dieu, j'ai dû me tromper de numéro. Ah, quel bazar.
Retrouvons une dernière fois la critique littéraire Chun Soo-yong qui nous explique ce que signifie cette dernière scène.
Le titre de la nouvelle nous donne l'impression que Marisa est le personnage principal et nous fait attendre son apparition. Mais les protagonistes de cette histoire sont Johanna et Thomas, alors que Marisa n'est qu'un personnage secondaire. Dans la dernière scène, nous découvrons que la femme de chambre a changé le destin du couple. Une telle surprise rend la fin du récit encore plus satisfaisante. Mais Marisa a-t-elle inversé les bouteilles de champagne par inadvertance? Nous ne savons pas grand-chose d'elle. Mais Johanna a dit qu'elle avait dénoncé son gendre pour tentative de meurtre. Derrière sa façade joyeuse et distraite se cache une femme résolue qui ne tolère pas l'injustice. Peut-être que c'est la joyeuse bonne Marisa qui a manœuvré dans l'ombre l'empoisonnement, bien que personne ne puisse en être certain.
Thank you. ainsi se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à la nouvelle de Chun Myung-won, La joyeuse bonne Marisa. C'était Yun Yeni au micro avec Joanne Blondeau au doublage et Kim Hong-ju à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle Coréenne la semaine prochaine. Au revoir.